Bonjour à tous. Alors c'est très agréable de voir tous les jeunes qui partent là, parce que ils sourient tout le temps. Alors c'est vraiment très agréable. Ils sont heureux de venir au culte, ils sont heureux de se retrouver entre amis, jeunes amis chrétiens, chrétiennes. Alors c'est vraiment très agréable. Je voulais vous encourager pour eux. Vous vous souvenez, bien entendu, ce dont nous avons parlé la semaine passée, c'est le fait que nous soyons baptisés du Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit est une personne, c'est la troisième personne, donc, de la Trinité. Cet après-midi, nous allons voir ce qu'est la plénitude du Saint-Esprit. Donc, rien que le thème qui se trouve dans la Bible, avec le dernier verset qui a été lu, « Soyez remplis du Saint-Esprit », ça veut dire « Soyez remplis de cette personne », hein, pas simplement de quelque chose d'éthéré, mais soyons remplis de la personne du Saint-Esprit. Et la personne du Saint-Esprit, ça correspond à la personne de Jésus-Christ, d'être rempli de Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il nous est dit « racheter le temps », etc. Mais comment vivre ces choses autrement qu'en étant rempli de la personne de Christ, qui va nous donner toute sagesse, toute connaissance pour savoir comment se comporter, toute force aussi, et tout bien-être pour vivre comme des chrétiens sur cette terre. Alors, comme nous l'avons lu, « soyez remplis de l'Esprit ». Tous les enfants de Dieu ont le Saint-Esprit. Hein, tous ceux qui sont nés de nouveau ont le Saint-Esprit, mais tous n'ont pas la plénitude de l'Esprit. Et c'est là où les Saintes Écritures font une distinction. Tous les chrétiens nés de nouveau, ceux qui se sont repentis, qui ont reçu le Christ comme leur sauveur personnel, qui sont nés de nouveau, sont baptisés du Saint-Esprit. Mais ils peuvent être baptisés, mais ne pas être remplis. C'est-à-dire ne pas laisser la personne du Saint-Esprit exercer son autorité dans leur vie. En plus, parfois on suppose trop souvent que cette plénitude est un luxe spirituel. Hein, comme si la plénitude du Saint-Esprit, c'est quelque chose d'extraordinaire, de très particulier, qui serait donc un luxe spirituel réservé à de rares privilégiés. Ben non, parce que Dieu veut que nous soyons tous remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est ce que nous voyons dans les premiers versets, en Éphésiens 3, 14, 21. Et ce qui est intéressant, c'est que cette expérience d'être rempli de toute la plénitude de Dieu, eh bien Paul l'identifie avec la connaissance de l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance. C'est très intéressant parce que là, on a une articulation, dans toute la Bible c'est comme ça, mais on a en particulier une articulation relationnelle entre Dieu et son enfant, né de nouveau. La connaissance qui surpasse toute connaissance. Vous savez qu'en Dieu, en Jésus-Christ, il n'y a aucune limite. Nous sommes limités dans notre corps, physiquement parlant. Mais le miracle du christianisme biblique, c'est que Dieu veut nous faire vivre quelque chose d'extraordinaire dans notre corps limité. Pourquoi ? Parce que lui est illimité. Et donc nous pouvons véritablement, vous et moi, rentrer quotidiennement, seconde après seconde, avoir une vie, une véritable vie d'amour, une relation amoureuse, spirituellement amoureuse avec le Seigneur. Et c'est ça la plénitude du Saint-Esprit. C'est véritablement être habité, laisser le Seigneur par son esprit agir en nous. Et ça, c'est bouleversant pour chacun d'entre nous. Je vous l'ai déjà dit ici, quand on tombe amoureux de quelqu'un, d'une jeune femme pour les jeunes gens et d'un jeune homme pour les jeunes femmes, mais ça vous bouleverse. La vie n'a pas changé autour de vous, c'est vous qui avez changé parce que l'amour est là et nous bouleverse. Eh bien, l'amour de Christ, c'est la même chose. Capable de nous bouleverser à un point extraordinaire. Alors, peu de chrétiens semblent comprendre cela, cette plénitude du Saint-Esprit. Beaucoup se contentent d'une vie spirituelle médiocre ou pauvre. Mais aux yeux de Dieu, la plénitude de l'Esprit n'est pas un luxe. Elle est une nécessité. D'ailleurs, c'est un impératif. Soyez remplis de l'Esprit, c'est un ordre. Ne pas être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement anormal, c'est un péché. Quand on regarde les choses telles que Dieu nous les enseigne, ne pas vivre dans la plénitude du Saint-Esprit, c'est un péché. Parce que c'est ce que Dieu veut nous donner, nous communiquer, pour que nous puissions véritablement vivre cette relation avec lui et voir Dieu agir en nous et au travers de nous pour sa gloire. Alors, il y a dans les Saintes Écritures, il y a deux niveaux d'expérience chrétienne. On trouve ça dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 1 à 3. Paul dit aux Corinthiens, « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. » Et vous ne le pouvez pas même à présent, car vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme, c'est-à-dire la façon des individus humains. Le chrétien charnel est comme un bébé encore au biberon. Il dit « je vous ai donné du lait, j'ai pas pu vous donner de nourriture solide ». Les sens spirituels du chrétien charnel sont si peu développés qu'il ne peut sonder les profondeurs de Dieu. Vous connaissez ce verset dans la première aux Corinthiens, l'esprit sonde tout jusque dans les profondeurs de Dieu. Et nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit de Christ. Donc ce que Dieu veut faire en nous baptisant du Saint-Esprit et en nous invitant à vivre cette plénitude du Saint-Esprit, c'est qu'il nous invite à une connaissance renouvelée de sa personne, à pénétrer dans une intimité avec lui, comme on le fait quand on a une amitié sérieuse avec quelqu'un, on rentre en communication, en communion, on échange, on découvre, on respecte, on aime, on sert, on vit pour la personne. Eh bien, c'est cela que les Saintes Écritures veulent nous accorder. Pour que la vie chrétienne soit quelque chose de naturel, être chrétien, ça soit naturel, non pas en permanence une lutte écrasante et décourageante. Dans la plénitude du Saint-Esprit, la vie chrétienne, c'est une joie, c'est une succession de difficultés, de pas de foi, de joie, parfois de tristesse parce que à cause du péché. Mais c'est quelque chose de naturel. C'est la nature de Christ, le Saint-Esprit en nous, qui s'exprime dans nos corps. Alors le chrétien charnel, donc, est encore comme un bébé encore au biberon. Le chrétien adulte, le chrétien spirituel, peut discerner entre le bien et le mal. Il est capable d'instruire d'autres personnes concernant les choses de Dieu, puisque par la plénitude du Saint-Esprit, il pénètre dans l'intimité de la connaissance de son Créateur et Sauveur. Le chrétien charnel, c'est-à-dire ce bébé en Christ, au contraire, est toujours attiré par les choses de ce monde et par le péché. C'est quelqu'un qui néglige les moyens que Dieu lui donne pour approfondir sa vie spirituelle. Moi, ça fait 47 ans que le Seigneur m'a sauvé. Je suis pasteur à plein temps depuis plus de 30 ans. Je suis toujours été étonné de rencontrer des chrétiens qui vivaient pour le Christ, on va dire, à 100 à l'heure, avec leurs défauts, avec ce qu'ils sont, mais un cœur gros comme ça pour le Seigneur, puis d'autres chrétiens qui sont toujours en train de tirer, comme s'ils avaient un poids colossal à tirer, au lieu d'être soulagés par la présence du Seigneur. Et c'est des chrétiens en général qui lisent très peu leur Bible, qui ont pratiquement pas de culte spirituel, ou en tous les cas pas d'une manière régulière, donc ils passent pas du temps à part avec le Seigneur, qui n'entretiennent pas une relation intime avec leur Sauveur, et puis du coup qui témoignent très peu, voire pratiquement pas. Le chrétien spirituel, c'est celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu, donc celui qui est rempli de Jésus-Christ. Le chrétien charnel a l'Esprit de Dieu en lui et avec lui, sinon il ne serait pas un enfant de Dieu. Il leur dit dans ce texte de 1 Corinthiens chapitre 3 verset 1 à 3, pour moi frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Donc ils sont vraiment en Christ, et c'est toute une chance pour eux, parce que deux chrétiens charnels, enfin enfants peu spirituels, on peut véritablement changer et basculer dans une vie authentique, une relation intime avec notre Sauveur. Alors le texte d'Éphésiens 5:18 dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit ». Alors quand on analyse de plus près ce commandement, on se rend compte qu'il y a un temps progressif dans le grec, et ça ne ressort pas dans notre traduction française, hein. Le sens du grec original ne ressort pas entièrement dans la traduction. Pourquoi ? Parce qu'il n'existe pas de forme grammaticale en langue française pour traduire l'impératif progressif grec. Il faudrait traduire la phrase de cette façon suivante. Remplissez-vous sans cesse, soyez toujours en train d'être remplis. Alors c'est cela, la plénitude du Saint-Esprit, c'est un échange, c'est une vie, c'est comme une source qui jaillit, hein, cette source qui jaillira jusque dans la vie éternelle, donc faut être branché à la source en permanence. C'est donc une action continue, perpétuelle, progressive, et non pas une action simple et définitive une fois pour toutes. Pourquoi ? Parce qu'il existe en grec un impératif simple, mais l'apôtre Paul ne l'emploie pas dans ce contexte, il emploie la forme progressive. Et cela est très significatif, parce que le Saint-Esprit nous communique par là une vérité très importante sur lui-même. On ne reçoit pas la plénitude du Saint-Esprit une fois pour toutes. Ce n'est pas une action définitive. On ne peut pas s'afficher avec l'étiquette « définitivement rempli ». Pourquoi ? Parce que la plénitude du Saint-Esprit est liée à l'intimité, à l'obéissance dans laquelle le Saint-Esprit lui-même va nous conduire, l'obéissance à Christ. C'est donc une vie. C'est comme une relation dans un couple marié, c'est une relation. On fait attention, pourquoi ? Parce qu'on aime, alors en permanence, on pense à l'être aimé, et on a de la galanterie, on a des prévenances, on réfléchit à ce qu'on pourrait faire de bien, on aime, on embrasse, on respecte, enfin, vous savez ce que c'est que la vie dans les familles, même les parents, les enfants, réciproquement, etc. Mais c'est la même relation avec notre Créateur et notre Sauveur. Alors si la plénitude du Saint-Esprit n'est pas une action définitive, par contre, la nouvelle naissance est un acte irréversible de Dieu. Et ça c'est très important pour chacun de nous en tant que chrétien de savoir que Dieu nous a sauvés une fois pour toutes et nous a baptisés une fois pour toutes du Saint-Esprit. C'est une action acquise, quelque chose qui a été fait dans le passé. Et c'est sur cette réalité-là que nous allons pouvoir vivre la plénitude du Saint-Esprit. Si je suis enfant de Dieu, je le suis pour toujours. Je ne peux pas être aujourd'hui enfant de Dieu, demain autre chose et le surlendemain de nouveau enfant de Dieu. À cause de mon ministère, je rencontre toutes sortes de chrétiens de toutes sortes de dénominations, et selon certaines dénominations, il y a un enseignement qui n'est pas très complet sur le sujet. Et vous avez les chrétiens qui y sont toujours en train de se dire « j'aurais pas perdu le Saint-Esprit ». Et ils sont troublés, ils n'arrivent pas à progresser, ils sont malheureux. Notre Dieu, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, est un Dieu de promesses, de certitudes. C'est pas quelqu'un qui est en train de nous déstabiliser. Et c'est pour ça que la certitude de notre nouvelle naissance, du baptême du Saint-Esprit, eh bien c'est un fait acquis qui n'est jamais remis en cause par le Seigneur. On verra dimanche prochain qu'on peut attrister le Saint-Esprit, voire l'éteindre, mais ça n'a rien à voir avec la perte du baptême du Saint-Esprit. Et donc, puisqu'on est baptisé du Saint-Esprit, il est impossible de perdre son salut. Parce que Christ vit en nous, et comme dit le Seigneur, je vous enverrai un consolateur, il vivra éternellement avec vous et en vous. Donc on est scellé une fois pour toutes du baptême du Saint-Esprit. Si nous avons la certitude de notre nouvelle naissance, de notre baptême du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit d'aujourd'hui ne garantit en rien celle de demain. je peux marcher dans la plénitude du Saint-Esprit, avoir une mauvaise pensée qui n'est pas confessée, avoir un comportement, une réaction qui mérite une demande de pardon, et si je ne le fais pas, si je ne l'accomplis pas, cette demande de pardon, je vais perdre ma plénitude. Je vais pas perdre mon salut, je vais pas perdre mon baptême du Saint-Esprit, je vais perdre la plénitude. C'est pour ça que David va dire dans un de ses psaumes, je crois que c'est le 51e, il dit « Rends-moi la joie de mon salut ». Il avait son salut, mais il n'avait plus la joie, il n'avait plus la plénitude de son salut, parce qu'il avait commis quelque chose de répréhensible. Alors, quel est le sens de la plénitude du Saint-Esprit? Eh bien, nous ne pouvons pas obtenir la plénitude du Saint-Esprit simplement pour notre satisfaction personnelle. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit et Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, ont manifesté une simplicité, une humilité, qualité de service. Ils ne sont pas venus avec arrogance, le Christ n'est pas venu avec arrogance. Tout Seigneur qu'il est, tout Créateur qu'il est, il n'est pas venu avec arrogance, avec supériorité. Il est venu avec amour, avec pureté, avec sainteté, avec justice. Il est venu pour servir, il est venu pour sauver, tout en étant le maître absolu de l'univers, mais il n'est jamais venu avec suffisance et orgueil. Et donc la plénitude du Saint-Esprit ne peut pas nous entraîner dans l'orgueil, la suffisance et la bêtise. Non, la plénitude du Saint-Esprit va nous conduire dans la simplicité. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose dont on a conscience, que l'on, une chose que l'on reçoit. C'est pas quelque chose qui vient de nous, cette plénitude. Nous ne sommes que des êtres humains, des pécheurs rachetés, et Dieu veut faire de nous des pécheurs rachetés qui marchent dans la sainteté. Donc on a conscience que toutes ces choses ne viennent pas de nous. Et donc ça se traduit par une attitude simple et une attitude de service. On est rempli du Saint-Esprit pour glorifier Dieu. On n'est pas rempli du Saint-Esprit pour, comme disent les jeunes, se faire valoir. Enfin, ils ont une expression un peu moins élégante que cela. Donc, vous comprenez. La seule satisfaction réelle de l'homme, des créatures que nous sommes, consiste à faire la volonté de Dieu. Un chrétien qui marche dans la plénitude du Saint-Esprit, il accomplit par la présence de l'Esprit, eh bien, la volonté de Dieu, et il n'y a pas une plus grande satisfaction que celle-là. C'est un bonheur incroyable d'appartenir à Dieu et en même temps de vivre pour lui sur cette terre. Et lorsque Dieu trouve un homme qui l'aime au point de vivre pour lui, et le Saint-Esprit nous amène à vivre pour Dieu, quand le Saint-Esprit nous a convaincus de péché, de justice et de jugement, pour nous amener au pied de la croix pour recevoir notre Sauveur, il continue son travail. Il nous donne envie de vivre pour Christ, parce qu'il n'y a pas être supérieur au Christ, et il n'y a personne de comparable à notre Seigneur et Sauveur. Alors vivre pour Christ, c'est la plus belle des destinées, c'est d'ailleurs celle à laquelle vous et moi nous sommes appelés en tant que chrétiens, mais aussi en tant qu'être humain. Tout être humain, quel qu'il soit, tant qu'il n'a pas rencontré Christ, est malheureux. Même si c'est un être religieux avec des capacités particulières, s'il ne connaît pas personnellement le Christ et qu'il ne vit pas pour le Christ et par le Christ, il n'est pas plus heureux que celui qui n'est pas né de nouveau. Donc lorsque Dieu trouve un homme qui l'aime au point de vivre pour lui, Dieu lui ouvre son cœur et fait de cet homme le véhicule de son amour. Vous savez, se réveiller le matin en sachant qu'on est aimé, et que Dieu va accomplir des choses et va nous utiliser tout au long de la journée pour manifester sa gloire et son amour, mais c'est quelque chose de formidable, c'est une aventure. Il n'y a aucune journée qui se ressemble quand on est chrétien. Parce que tous les matins, on se réveille, je ne sais pas comment ça se passe pour vous, je me réveille et je me dis, une nouvelle journée avec le Sauveur. Il a veillé sur moi toute la nuit pendant que je dormais. Et aujourd'hui, il va me conduire, je suis éveillé, je suis conscient de ma journée, et il va me conduire, faire des rencontres, rendre service, faire des choses, il va utiliser mon intelligence, il va utiliser mes mains, mes jambes, pour naître tout entier pour sa gloire. Et alors la joie, vous savez, la joie d'être purifié par le Seigneur, c'est quelque chose de, comme disait Paul à Timothée, avoir une conscience pure, mais c'est d'une richesse extraordinaire. Vous pouvez regarder n'importe qui dans les yeux. Vous savez, c'est très drôle. L'autre jour, on a fait un petit tour avec mon épouse, une petite marche, dans le quartier, par chez nous, là. Et puis, le lendemain, il y a un voisin qui me dit « Ah, mais Jean, je t'ai vu à telle heure, à tel endroit. » Alors, je lui dis « Bah oui, on se promenait avec mon épouse. » Alors, il me dit « Ah bah, tu vois, hein, vous pouvez rien faire sans qu'on vous voie. » Et alors, moi, je regarde le voisin, puis je lui dis « Mais on n'a rien à cacher. » Alors, il dit « Ah bah oui, c'est vrai. » Vous voyez, il n'y a rien à cacher, on est purifié par le Seigneur, on peut regarder n'importe qui dans les yeux. Ils peuvent nous poser n'importe quelle question, sauf des questions de notre vie personnelle, privée, intime. Mais ils peuvent nous interroger sur tout et n'importe quoi, à part le secteur privé de nos vies. On leur répond, on est sauvé, on appartient au Seigneur, il n'y a rien à cacher, on est heureux. Donc toute l'énergie, toute l'intelligence, toute la générosité de Dieu sont accessibles aux chrétiens qui marchent dans la plénitude. Et comme Dieu est éternel et infini, vous imaginez la source. La source, Dieu déverse en nous sa personne. Sa vie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça s'appelle la vie éternelle d'ailleurs. C'est-à-dire que ça n'a pas de fin, c'est la vie éternelle. Alors c'est intéressant parce que dans la configuration donc géographique de la Terre Sainte, il y a un principe qui illustre à merveille la plénitude du Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que en Terre Sainte, il y a, comme vous le savez, il y a deux grands lacs. Il y a le lac de Galilée, puis il y a la mer Morte. Et nous avons ici une image frappante, un symbolisme spirituel. Les deux lacs reçoivent la même eau qui découle de la plus haute montagne du pays, c'est-à-dire de l'Hermon. Pourtant, les deux lacs sont aussi différents que la vie et la mort. Hein, le lac de Galilée et la mer Morte, c'est pas du tout la même chose. Le lac de Galilée, près des neiges du mont Hermon, reçoit ses eaux directement de la source et donne tout ce qu'il a reçu. Le lac reçoit de l'eau et il y a une sortie à l'autre bout du lac qui va se déverser. Et donc les eaux vives passent sans cesse au travers du lac pour couler ensuite dans la basse vallée du Jourdain. Elles sont fraîches et remplies de poissons. Elles nourrissent une vie abondante sur ces rives où Jésus-Christ lui-même a vécu. La mer Morte, au contraire, tout en étant abreuvée des mêmes eaux, ne les reçoit pas directement de la source, mais par l'intermédiaire du lac de Galilée. Elle ne donne nulle part ce qu'elle a reçu, c'est-à-dire c'est une mer fermée. Et du coup, au lieu de recevoir et de donner, elle reçoit, elle stocke, la chaleur fait évaporer l'eau et c'est le sel qui reste. C'est ça le principe de grosso modo de la mer Morte. Elle est située dans un creux à un niveau si bas, elle est à 300 mètres au-dessous du niveau de la Méditerranée, que la chaleur y est suffocante, elle perd en évaporation toutes les eaux qu'elle reçoit. Tout ce qui lui reste, c'est une amertume chaque année plus intense, qui rend la vie impossible dans cette mer, et aux alentours. Tout est stérile, desséché et salin. Un oiseau volant par-dessus cette mer tombe asphyxié. Vous vous rendez compte? Une seule goutte de cette eau dans l'œil est aussi cuisante qu'un acide. Et quelle est la signification, dans le fond, de ces deux lacs, du lac de Galilée et de la mer Morte? Le lac de Galilée ressemble aux chrétiens spirituels. Il vit près de Dieu, il boit sans cesse à la source, il est constamment renouvelé par un courant perpétuel de vie divine que Dieu verse au travers de lui. Le Saint-Esprit le remplit parce qu'il reste toujours et tout à la fois ouvert à Dieu et aux hommes. L'Esprit crée en lui et autour de lui la vie de Christ. C'est extraordinaire d'être chrétien dans notre société, dans notre monde. Je suis chrétien, témoin, on peut le dire à nos amis, nos collègues, n'importe où, des inconnus qu'on rencontre, etc. On peut leur dire, il y a une fierté à être chrétien, parce qu'on porte en nous la vie de Christ, le seul message digne de ce nom, capable de changer une vie, de sauver une âme. Alors il y avait, puis il y a le chrétien charnel, il ressemble à la mer Morte. Il est loin de la source, il dépend des autres chrétiens pour sa vie spirituelle, au lieu de se ressourcer dans l'intimité de Dieu. Il reçoit certes l'Esprit de Dieu en abondance, mais il ne sait se tenir dans cette abondance. Le Saint-Esprit est là, il a été baptisé, le Saint-Esprit est prêt à agir, la personne du Saint-Esprit lui parle et lui dit « mais obéis, fais ceci, avance par la foi », puis il bouge pas. Il vit à un niveau spirituel si bas que cette plénitude lui échappe au fur et à mesure qu'il la reçoit. Son âme connaît une déception, une amertume croissante, année après année. Hein, il y a des chrétiens nés de nouveau, on se dit, mais qu'est-ce qui, c'est malheureux, quoi. Et le secret de changement de leur vie, c'est la plénitude du Saint-Esprit. C'est des gens qui ne, dans le fond, ne donnent rien de ce qu'ils reçoivent. Ils gardent pour eux. Vous savez qu'il n'y a pas plus malheureux qu'un chrétien qui veut vivre pour lui-même. D'ailleurs, c'est un non-sens. Un disciple, ça ne vit jamais pour soi-même. Mais alors, un chrétien qui veut vivre pour lui-même et qui retient sa vie au lieu de la donner au Christ comme une offrande, ben, il n'y a pas plus malheureux que celui-là. D'ailleurs, c'est mon père spirituel disait, il n'y a pas plus triste qu'un triste chrétien. Pourquoi ? Parce que chrétien doit être joyeux, doit être enthousiaste, doit communiquer quelque chose, il doit être un modèle, un exemple, enfin, etc. Donc le chrétien charnel est incapable de transmettre ou de nourrir une vie spirituelle autour de lui. Un chrétien charnel, posez la question, est-ce que tu as déjà amené quelqu'un au Seigneur ? Non. Chrétien spirituel, le Seigneur va lui donner des enfants. Ses propres enfants spirituels. Dieu va le conduire à rencontrer des personnes, il va leur parler du Seigneur, il va être capable de les instruire, et il va avoir des enfants spirituels. Il va amener des âmes au salut, par l'intermédiaire de Christ, et ça c'est une expérience unique. Il n'y a pas plus belle chose que de partager l'Évangile et de voir un Seigneur sauver quelqu'un au travers de notre témoignage, en nous utilisant, c'est quelque chose de formidable. Alors il y a, je crois que je vous ai raconté ça il y a quelques années passées, il y avait dans un missionnaire dans une jungle, j'ai oublié le pays, mais il était au milieu d'une tribu qui l'évangélisait, et puis il s'était converti, la tribu s'était convertie, et alors c'est pas lui qui prêchait ce dimanche matin, c'était un indigène qui s'était donc converti et qui prêchait. Et voilà qu'il entend cet homme qui était au Seigneur, qui dit à sa tribu, il dit, enfin aux membres de sa tribu, il leur dit « Dégrenouillez vos cœurs !» Ah, et puis les amis de la tribu étaient là en poussant des hurrahs et tout. Et alors ils comprenaient pas le missionnaire. Qu'est-ce que c'est que ça, dégrenouiller votre cœur, dégrenouiller vos cœurs? Alors à la fin du culte, il va voir ce prédicateur. Il lui dit mais qu'est-ce que c'est, dégrenouiller vos cœurs? Et alors le prédicateur il dit mais tu vois, on reçoit l'eau au village, on reçoit l'eau d'une source qui est très loin dans la montagne. Et donc on a coupé des bambous en deux pour faire des gouttières, là, et puis on a tout un réseau de gouttières qui amènent l'eau de la source au village. Seulement, le problème, c'est que les crapauds et les grenouilles, ils se mettent là-dedans, parce qu'il y a de l'humidité, donc quand il y a une grenouille, un crapaud, ça va, mais quand ils sont des dizaines et des dizaines, l'eau n'arrive plus. Et donc, il faut dégrenouiller les conduits, parce que sinon, on n'a pas d'eau vive. Et il dit, tu vois, moi je parle du Saint-Esprit, ben c'est ça l'eau vive, le Saint-Esprit c'est l'eau vive qui coule en nous, puis qui se répand, et qui nous traverse, et nous satisfait pleinement. Alors il dit, quand il y a un péché, il faut dégrenouiller son cœur. Et ça parle aux indigènes, à la tribu, parce qu'ils savent bien que si les grenouilles sont là, il n'y a plus d'eau vive. Et ben spirituellement c'est la même chose. Alors frères et sœurs, je vous connais pas plus que ça, mais si vous devez dégrenouiller votre cœur, ben faites-le. Parce que il faut laisser la source de l'eau vive, l'eau sainte de l'esprit, nous traverser, nous utiliser, nous épancher et nous permettre de vivre à la gloire de Dieu. Alors j'avais noté cette question, où en es-tu ? Pardonnez-moi de vous tutoyer. Es-tu au lac de Galilée ou es-tu à la mer morte ? C'est la question qu'il faut se poser. Amen.